Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Rencontre mensuelle avec notre évêque, Monseigneur Marc Haillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Une précision, cette émission a été enregistrée le jeudi 12 novembre 2009 à l'évêché de Bayonne et non dans nos studios, ce qui explique la qualité moyenne de cet enregistrement. Par avance, nous vous remercions de votre compréhension. Rencontre mensuelle avec notre évêque, Monseigneur Marc Haillé. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de retrouver notre évêque, Monseigneur Marc Haillé, pour la rencontre mensuelle que nous avons initiée depuis le mois d'octobre. Je suis accompagné pour questionner notre évêque de Olivier Drapé, le délégué épiscopal à l'information et à la communication. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Bonjour Monseigneur Haillé.
Bonjour.
Monseigneur Haillé, vous revenez de Lourdes, c'était juste après la Toussaint, vous avez passé une semaine avec tous les évêques de France à Lourdes. Ce sera le sujet principal donc de notre émission de ce mois de novembre, mais avant de parler de l'Assemblée plénière, vous étiez également avec les jeunes du diocèse à Brive-la-Gaillarde pour un rassemblement de lycéens. Alors pouvez-vous nous dire comment vous avez vécu, vous, en tant que jeune évêque, ce rassemblement de jeunes lycéens?
C'était un très beau rassemblement qui a été organisé comme chaque année par l'aumônerie de l'enseignement public, mais aussi avec le concours de l'enseignement catholique à Brive. Donc nous avons rassemblé à peu près 800 jeunes, dont une délégation quand même de 150 jeunes lycéens du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron, qui démontrent une fois de plus la capacité de mobilisation des responsables de la pastorale des jeunes dans notre diocèse, que ce soit les délégués diocésains, que sont l'abbé Jean-Paul Martinon et l'abbé Dominique Nalis, mais aussi tous les responsables de l'AEP et autres groupes et mouvements importants. C'est un temps quand même très fort, qui a été bien organisé, et en particulier avec la participation des évêques, en effet, qui, à un moment ou à un autre, sont passés, d'autant plus que nous avions une réunion des évêques de l'interprovince de Bordeaux et Poitiers, pour préparer justement l'assemblée plénière des évêques à Lourdes. Et en particulier une matinée très forte qui a été consacrée par groupe de diocèses dans les églises du centre-ville de Brive à des témoignages sur le thème qui était le thème du bonheur, n'est-ce pas? Qui nous montrera le bonheur? Même si le thème général était assorti d'un slogan « Mêle-toi de bonheur », nous étions aussi dans une patrie du rugby, n'est-ce pas? Et suivi d'une catéchèse faite par un évêque. Et moi-même, j'ai pu ainsi participer à une matinée dans l'église Saint-Martin, au centre-ville de Brive, avec les délégations de Tulle qui nous recevaient et Poitiers, donc un nombre assez important de jeunes, auxquels j'ai pu faire une catéchèse sur les béatitudes évangéliques.
Monseigneur Haillé, vous avez donné rendez-vous d'ailleurs aux jeunes du diocèse pour les prochaines JMJ qui se dérouleront, les Journées mondiales de la jeunesse, qui se dérouleront le week-end des Rameaux à Saint-Jean-de-Luz. Alors venons-en maintenant au sujet principal donc de cette émission du mois de novembre, à savoir l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes. Olivier Drapé.
Oui, Monseigneur, vous étiez donc présent comme tous vos confrères, comme l'ensemble de l'épiscopat français à Lourdes pour l'Assemblée plénière des évêques de France. C'était du 3 au 8 novembre. Il a été abondamment question dans la presse catholique et dans la presse en général des travaux de cette Assemblée plénière, mais avant de rentrer dans le contenu de ces travaux et des différents chantiers qui ont fait l'objet de cette assemblée, pouvez-vous simplement nous faire part peut-être de votre impression générale sur le climat qui a prévalu pendant ces quelques jours?
Alors c'est la troisième fois finalement que je participe à cette assemblée plénière. Et l'an dernier en novembre, je n'étais encore qu'un évêque nommé puisque je n'ai pas encore ordonné. Mais je me réjouis en tout cas de ces temps de communion, je dirais de collégialité épiscopale, avec mes frères évêques de toutes les générations, parce que les jeunes évêques que je retrouve aussi avec plaisir, bien sûr, parce que nous avions participé aussi ensemble à une session de nouveaux évêques à Rome, organisée par la Congrégation pour les évêques, donc au début du mois de septembre. Mais j'ai été très, très impressionné par le climat de grande communion qui régnait, évidemment fondée dans des temps de prière qui rythmaient nos journées, en particulier au sommet de la journée, la, la célébration de l'Eucharistie tous ensemble dans la basilique Sainte-Bernadette. Mais on sentait quand même un beau consensus de fond, et je dirais un consensus d'espérance, se dégager de nos échanges, des témoignages entendus, des travaux qui donnaient lieu évidemment à des débats publics, mais avec beaucoup de paix et une grande lucidité pastorale commune, qui semble en effet aussi se dessiner par rapport à des situations qui ne sont pas faciles, où nous connaissons quand même de grandes épreuves. Je crois que c'est ce qui revient quand même sans cesse dans nos échanges même informels avec des évêques dont les diocèses sont parfois en très grande difficulté, en particulier au niveau de la pénurie des prêtres et même de la relève des laïcs en responsabilité. Et je dois dire que on est tous conscients de l'épreuve que nous traversons et en même temps tous admiratifs, je dirais, devant les signes de renouveau que nous pouvons constater généralement dans nos diocèses, en particulier dans le peuple chrétien. Et donc j'étais très, très frappé par la richesse et la qualité des témoignages et des échanges, en particulier sur les chantiers que nous avons particulièrement travaillés.
Avant d'aborder les grands dossiers qui ont été traités à Lourdes, Monseigneur Hayet, vous-même, vous avez présidé la messe du mercredi, je crois. Alors comment ça se passe? Qui décide que c'est tel évêque qui va présider la messe de tous les évêques, finalement?
Alors je ne sais pas si c'est un concours de circonstances, parce que le secrétaire général adjoint chargé de la liturgie n'est autre que Monseigneur André Duplex, qui est de notre diocèse, et avec qui j'entretiens des relations très, très cordiales. Et qui m'avait tout simplement fait la demande, comme il doit le faire à tous ceux qui doivent présider l'Eucharistie au cours de ces jours. Je crois en fait qu'on demande aux nouveaux évêques de pouvoir au moins une fois célébrer l'Eucharistie, la concélébration, présider la concélébration avec leurs confrères. Alors c'est vrai que c'est une belle grâce, un bel honneur. Je dois vous dire que j'étais quand même un petit peu dans un petit soulier, parce qu'un évêque néophyte qui doit s'adresser dans l'homélie devant des évêques d'expérience, c'est forcément toujours un petit défi. Mais on est entouré d'une grande fraternité.
L'autre temps fort, c'est la messe dominicale qui a eu lieu le 8 novembre et qui devait être célébrée à la grotte, finalement, qui s'est célébrée à la basilique du Rosaire. Et on vous a vu à la télévision aux côtés de notre ancien évêque, de l'évêque émérite du diocèse de Bayonne, Monseigneur Pierre Moller. Comment va-t-il?
Alors, Monsieur Pierre Moller va très bien. Je crois qu'il commence à prendre ses marques dans son nouveau mode de vie, hein, qui doit être d'ailleurs bien occupé, car comme vous le savez, il a accepté la charge d'aumônier diocésain de l'hospitalité du diocèse de Dax. Et d'autre part, son temps est occupé aussi par beaucoup de prédications de retraite chez des religieux, des religieuses, dans le diocèse d'ailleurs, comme ailleurs. En tout cas, nous étions bien heureux de nous retrouver, et effectivement, pendant la messe télévisée, nous étions l'un à côté de l'autre, et c'est arrivé à plusieurs reprises d'ailleurs, et les autres évêques en passant disaient, voilà, l'ancien et le nouveau.
Alors, je laisse la parole à Olivier Drapé pour aborder donc les sujets, les dossiers principaux traités à Lourdes pendant cette assemblée plénière des évêques de France.
Je crois que le fil conducteur de ces quelques jours de travaux de l'assemblée plénière des évêques a été la préoccupation concernant l'avenir des communautés chrétiennes dans un contexte qui effectivement peut paraître préoccupant compte tenu de la crise des vocations de prêtres et d'une certaine manière d'ailleurs de laïcs aussi que vous évoquiez. Mais pouvez-vous nous en dire davantage, notamment sur le contenu de ce qu'on appelle le rapport d'Agens, c'est-à-dire le rapport de Monseigneur Claude d'Agens, évêque d'Angoulême, sur, selon l'intitulé, l'indifférence religieuse, la visibilité de l'Église et l'évangélisation.
Oui, alors voilà, ce fameux rapport d'Agens, qui est, j'allais dire, le fruit d'un travail, d'un groupe de travail, qui a été constitué, après le choix de ce thème, par l'Assemblée plénière, sur proposition du groupe Études et Projets, il y a donc déjà quelques années, et qui aboutit maintenant à un travail affiné, qui nous a été présenté par Monseigneur d'Agens en assemblée plénière, assorti de deux témoignages qu'il avait demandé à deux évêques, un qui va devenir émérite et l'autre qui est nouvel évêque, pour pouvoir réagir à partir de leur situation pastorale à ce rapport, qui connaît lui-même un certain affinement par rapport à la mouture qui nous avait été présentée au mois d'avril dernier et qui a donné lieu en effet à bien des amendements. Par exemple, pour donner un détail qui ne trompe pas, ce rapport était d'abord intitulé « Indifférence religieuse et visibilité de l'Église » et acquiert maintenant ce nouveau titre de « Indifférence religieuse, visibilité de l'Église et évangélisation » et qui devrait être publié sous le titre proposé par M. Dagens « Entre épreuve et renouveau, la passion de l'Évangile ». Voyez, je crois que tout est dit là. Au fond, comme le précisait M. Dagens, il y a une évolution qui s'est faite depuis le premier rapport d'Agence qui avait donné lieu à cette fameuse lettre aux catholiques de France, proposer la foi, hein, en 1996. Lui-même dit, là où nous aurions analysé les causes et de la situation que nous vivons à partir de critères tirés plutôt de la psychologie et de la sociologie, aujourd'hui, nous sommes tenus de nous adonner à un véritable discernement spirituel et nous établir vraiment de l'intérieur même de la foi et de la tradition catholique, dit-il. Et la grande idée, au fond, c'est de réfléchir sur les conditions et les urgences de l'évangélisation dans le monde sécularisé d'aujourd'hui, dont nous savons qu'il est gagné par une certaine indifférence religieuse, mais qui n'est pas dénué pour autant d'attentes et d'inquiétudes spirituelles. Et c'est vrai que depuis 1996, les évêques s'accordent aussi pour constater des signes de renouveau spirituel, en particulier dans le peuple chrétien, aussi avec l'émergence d'un certain nombre de nouveaux mouvements, de nouvelles communautés. Et au fond, le grand défi, c'est de savoir comment est-ce que l'Église, dans ce monde sécularisé et fragile, va témoigner de la nouveauté radicale de l'Évangile, qui semble aussi attendue, d'une certaine manière, par nos contemporains.
Y a-t-il eu, Monseigneur, en dépit des différences importantes qui peuvent exister entre les différents diocèses ou en dépit des différences de style qui peuvent exister entre évêques, y a-t-il eu autour de ce rapport un certain consensus des évêques de France ?
Alors ça paraît évident qu'un véritable consensus semble s'établir sur l'urgence, je dirais, de l'évangélisation, sur la nécessité d'intégrer dans nos programmes pastoraux ce renouveau spirituel qu'on doit capitaliser, et en particulier la place des mouvements et des nouvelles associations de fidèles qui portent bien souvent ce renouveau spirituel dans l'Église d'aujourd'hui. Aussi, un consensus s'établit sur le caractère indispensable du sacerdoce ministériel, en particulier dans des diocèses où la pénurie des prêtres est extrêmement plus qu'inquiétante, je dirais même tragique. Et la nécessité aussi de bien articuler le ministère ordonné sur le sacerdoce commun des fidèles, la participation des laïcs à la vie et la mission de l'Église, et en particulier dans le domaine de la mission ad extra, je dirais, dans le domaine de l'évangélisation. En même temps, tout est à faire, et il est évident qu'il reste, et c'est bien normal et bien légitime, dans les diocèses, peut-être plusieurs accents, différents accents quant aux moyens à mettre en œuvre, quant au programme à établir pour relever un tel défi.
Dans un article du journal La Croix du 9 novembre qui vous cite, vous dites, ou en tout cas les journalistes ont retranscrit vos propos de cette manière, « Nous sommes passés de la pastorale de la conservation à celle de l'évangélisation ». Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors je dirais, la formule est peut-être un petit peu rapide et raccourcie, même si elle rend une bonne partie de mes propos. Je dirais que nous avons à passer d'une pastorale de la conservation qui reste nécessaire et qui a été l'objet, je dirais, de toutes les restructurations auxquelles nous avons été contraints dans nos diocèses pour mieux quadriller le territoire pastoral et, je dirais, mieux tenir nos positions et permettre de rassembler aussi les forces pour que nos communautés soient plus vivantes et plus appelantes, en particulier dans le rural. Mais je dirais que se fait jour ce consensus aussi que nous devrons passer d'une pastorale de la conservation qui reste en effet nécessaire et légitime à une pastorale de l'annonce, une pastorale de l'évangélisation en particulier en direction de tous ceux qui ne sont pas dans nos structures et dans nos quadrillages qui échappent tout simplement par l'évolution de la société sécularisée dans laquelle nous sommes et auxquels il faudra aussi trouver des moyens innovants pour les rejoignants, leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile.
Au cours des quelques journées de travail de l'Assemblée plénière des évêques, on est impressionné par le grand nombre de thèmes qui ont été abordés, par le grand nombre de dossiers qui ont été traités, certains concernant l'écologie, l'environnement, la sanctification du jour du Seigneur, le dimanche, l'enseignement catholique supérieur, mais également peut-être un thème qui a marqué, je pense, plus particulièrement l'attention des médias, la réflexion sur les nouvelles pauvretés. Que pouvez-vous nous en dire ?
Alors il faut bien distinguer entre les dossiers qui sont travaillés déjà depuis plusieurs années et qui aboutissent à des documents qui sont prêts d'être publiés aujourd'hui, et puis les nouveaux dossiers qui sont proposés pour les années à venir. Le comité études et projets est chargé en effet de présenter à l'Assemblée plénière un certain nombre de thèmes, et parmi les 5 thèmes qui nous ont été présentés, nous en avons choisi 2. Qui donnent lieu à la constitution actuellement de 2 groupes de travail, qui nous présenteront leurs travaux certainement seulement dans le délai d'un an. Donc le premier thème qui a été retenu, c'est celui de l'économie et de l'environnement, et le deuxième, celui du dimanche, défis et propositions. C'est vrai que nous avons aussi abordé un dossier qui avait commencé de nous être présenté à la dernière assemblée d'avril, sur les nouvelles pauvretés, pour prendre en compte, comme Canel 23, président de la Conférence des évêques de France, l'a bien souligné, en particulier dans son discours d'ouverture, la crise économique et sociale suite à cette crise financière qui s'est abattue sur le monde dans les derniers mois. Et c'est vrai que nous avons voulu être attentifs à toutes ces nouvelles pauvretés qui sont engendrées et qui d'ailleurs n'effacent pas les anciennes pauvretés. C'est pourquoi nous n'avons pas repris le terme de nouvelle dans le message, mais qui a donné lieu déjà à une lettre adressée par les évêques de France, sur laquelle nous sommes mis d'accord, évidemment, après débat, échange en carrefour et amendement d'une proposition qui nous avait été faite, sur ces nouvelles pauvretés, la nécessité pour toutes nos communautés et tous nos fidèles, pas seulement par organismes spécialisés interposés, de partager ces épreuves et ces pauvretés qui affligent nos contemporains aujourd'hui.
Quelle est la teneur du message que vous adressez donc aux communautés chrétiennes ? Les évêques de France visent la période de Noël.
Voilà, alors c'est une lettre qui a pour but d'encourager d'abord tout ce qui se fait déjà et de reconnaître en action de grâce cette grande mobilisation des chrétiens d'une manière générale, des fidèles de nos communautés, non seulement à travers des organismes caritatifs spécifiquement catholiques, mais aussi dans bien d'autres organismes sociaux et humanitaires, parce qu'ils sont la preuve d'une présence de l'Église et des chrétiens aux avant-postes, je dirais, de la solidarité. C'est un message qui, d'une certaine manière, voudrait se situer de l'intérieur de la foi, là aussi, et inviter tous les fidèles à se mobiliser encore davantage de l'intérieur de la foi au Christ, qui a livré sa vie par amour pour nous et qui nous communique cet amour, particulièrement dans la célébration de l'Eucharistie. Au fond, c'est pour honorer cette dimension, j'allais dire diaconale, de toute communauté chrétienne qui va de pair avec sa dimension liturgique et sa dimension kérigmatique d'annonce de l'Évangile. Pour rappeler que l'Église est par nature non seulement missionnaire, mais diaconale, et rappeler de manière pressante combien la charité du Christ, comme dit saint Paul, nous presse.
Au-delà, Monseigneur, des travaux sur le plan théorique, disons, de la conférence, enfin de l'Assemblée plénière des évêques de France, au-delà des rapports, des discours, des lettres qui vont être prochainement écrites et diffusées auprès des catholiques de France, est-ce qu'une telle Assemblée plénière débouche sur un certain nombre de propositions ou de résolutions concrètes pour les diocèses ?
Alors, pour l'instant, si vous voulez, si je me réfère en particulier à ce premier chantier intitulé désormais le rapport d'Agens, nous voulons en faire, dès qu'il sera publié, un instrument de travail, dit Mgr Claude d'Agens lui-même, pour un examen de conscience pastorale, vous voyez. Donc il sera certainement un texte que nous aurons concrètement à réfléchir et à débattre dans les instances de communion de nos diocèses. Je pense en particulier au conseil presbytéral qui va être dans notre diocèse très prochainement reconstitué. De même, les autres dossiers, dès lors que les travaux seront publiés, et qui pourront en effet nous aider dans les orientations pastorales pour les années à venir.
Autre sujet qui a été abordé donc à Lourdes, c'est la politique migratoire de l'Europe. Et vous avez eu une intervention de Jacques Barrot, qui est bien connu. Alors, qu'est-ce que vous avez-vous retenu de cette intervention et quelle est la position de l'Église de France par rapport aux migrants et aux sans-papiers?
Alors, c'était important que M. Jacques Barrot, en qualité de commissaire européen, chargé en particulier de ces politiques migratoires de l'Europe, puisse nous expliquer un peu cette politique qui voudrait se mettre en place au niveau européen et qui doit aussi rallier l'unanimité de tous les membres de la communauté européenne. Et qui a voulu, je crois que ce qui m'a frappé, c'est l'attention dans le discours, en tout cas, à la personne et aux droits élémentaires des personnes migrantes, en particulier irrégulières, qui ne perdent pas, sous prétexte qu'ils deviennent hors la loi, leurs droits élémentaires qui doivent être toujours respectés. L'Église s'est prononcée de manière très claire dans le discours d'ouverture, en particulier dans le discours de clôture de l'Assemblée plénière par du Cardinal 23, président de la Conférence des évêques de France. Je crois que M. Barrot a expliqué avec beaucoup de modération combien cette politique migratoire qui pouvait freiner d'une certaine manière les migrants irréguliers était nécessitée, ne serait-ce que pour faciliter l'intégration des migrants réguliers et aussi pour freiner les drames humains auxquels donnent lieu bien souvent ces migrations irrégulières, en particulier tout le... Je dirais le commerce, le trafic d'hommes, d'êtres humains, et avec des pertes en vies humaines très importantes que l'on peut enregistrer dans toutes ces migrations irrégulières.
Chez nous, il existe un centre de rétention à Hendaye. La CIMAD déclare qu'il y aurait eu en 2008 300 personnes qui seraient passées dans ce centre. Et sur ces 300 personnes, la moitié, en fait, ce sont des pèlerins qui allaient à Lourdes et qui avaient leur billet de retour. Donc la question que se pose la CIMAD, c'est de savoir s'il n'y a pas une politique du chiffre derrière ces interpellations et le fait de mettre ces personnes en centre de rétention alors qu'elles ont sur elles un billet pour rentrer chez elles.
Alors j'ai bien entendu en effet ces critiques et parfois même ces accusations qui sans doute sont motivées par un travail que la CIMAD fait de grande proximité à ces personnes qui sont détenues dans ces camps de rétention d'Hendaye en particulier. Mais j'ai entendu aussi la réponse qui a été faite par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et qui semble, chiffres à l'appui, tempérer un peu cette accusation en précisant que la plupart des personnes qui sont arrêtées le sont dans des conditions bien précises, conformes aux réglementations en usage, plutôt du côté d'Hendaye. On a voulu dire à un moment que on avait ciblé les paroissiens qui se rendaient, les migrants qui se rendaient en pèlerinage à Lourdes, et il a voulu montrer, statistiques à l'appui, semble-t-il, qu'il n'en était rien. Maintenant, je n'ai pas une connaissance suffisante et je dois encore bien m'informer de tous les tenants et aboutissants de cette polémique, entre guillemets, et je suis obligé aussi d'entendre autant les représentants de la CIMAD que le représentant de l'État dans notre département.
Que pensez-vous des cercles de silence qui sont organisés sur la place de la mairie à Bayonne le premier vendredi du mois? Ce sont principalement des chrétiens qui sont, et notamment des franciscains, qui sont à l'initiative de ces cercles de silence pour soutenir les sans-papiers.
Alors je pense que c'est une initiative qui a en effet l'avantage d'être dans cette politique de la non-violence et qui, justement, d'une manière très passive, paisible et pacifique, peut avoir pour bon effet d'attirer l'attention, en effet, sur la condition des sans-papiers et rappeler tout simplement, non pas d'entrer dans une politique politicienne qui ne doit pas nous concerner, quant à nous, mais en tout cas de rappeler, comme je disais tout à l'heure, le respect qui est dû aux droits les plus élémentaires de toute personne, quelle que soit sa régularité ou son irrégularité par rapport à la loi.
Pour revenir à l'Assemblée plénière des évêques de France, il y avait parmi vous un évêque d'Afrique qui vous a parlé, je crois, du tout récent synode pour l'Afrique. Pouvez-vous nous préciser de qui il s'agissait et quelle était la portée finalement de son intervention ou de son témoignage ?
Alors il s'agissait de l'archevêque de Sarre au Tchad qui venait ex-qualité, puisqu'il était secrétaire de l'Assemblée synodale, nous donner le témoignage de son expérience du deuxième synode sur l'Afrique qui s'est tenu en effet au mois d'octobre autour du pape Benoît XVI. Ça a été un très beau témoignage sur le signe pour le monde que peut être l'Église d'Afrique dans le continent africain, désirant œuvrer, c'était d'ailleurs le thème du synode, pour la réconciliation, la justice et la paix sur ce continent qui est encore bien embrasé, ensanglanté de tant de conflits entre pays, entre ethnies et avec des drames évidemment que nous connaissons. Et c'était une manière aussi d'attirer l'attention sur ces difficultés, mais aussi sur cette responsabilité que l'Église d'Afrique, que les Églises d'Afrique cherchent à prendre de manière très forte pour être un ciment d'unité, un ferment de réconciliation sur ce continent. Il a été très, très frappé lui-même de la qualité de l'Assemblée synodale, comparant d'ailleurs au premier synode d'Afrique, où les tensions étaient beaucoup plus à fleur de peau, là disant qu'il y avait un beau climat de paix, de communion, et que la présence, en particulier même silencieuse, mais permanente, du Saint-Père pendant tous ses travaux, a été d'un grand réconfort et d'un grand encouragement pour tous les évêques d'Afrique.
Autre sujet abordé, il y a eu un point par Mgr Dornella sur la bioéthique. On sait que c'est un sujet qui vous est cher. Vous-même, vous aviez organisé deux conférences débat à Bayonne et à Pau sur la bioéthique. Où en est-on ?
Alors, vous savez que au mois de février, donc, le groupe de travail présidé par Mgr Dornella avait publié un premier ouvrage intitulé « Bioéthique, propos pour un dialogue » qui avait pour but, en effet, d'apporter une participation de l'Église à ces fameux états généraux de la bioéthique qui se sont tenus au mois de juin dernier. Ce nouveau point qui est fait par M. Dornelas accompagne la publication d'un deuxième ouvrage intitulé « Bioéthique, question pour un discernement » qui fait suite à la publication de l'avis du Conseil d'État, comme vous le savez, qui avait été demandé par le gouvernement, et aussi qui fait suite au rapport des États généraux qui a été remis au président de la République par en particulier M. Leonetti, qui était le responsable de ces États généraux de la bioéthique. Question pour un discernement, car c'est vrai que ces rapports, aussi bien du Conseil d'État que celui des États généraux de la bioéthique, qui montrent aussi la prise de conscience citoyenne, qui parfois, d'un point de vue éthique, est encore plus aiguë que celle du Conseil d'État, comme le faisait remarquer Mgr Pierre Dornelas, pose évidemment des questions pour un discernement. Et donc c'est une nouvelle contribution à ce dialogue, en particulier avec les élus, avec les parlementaires, qui vont avoir au premier trimestre de l'année prochaine, 2010, à légiférer sur cette révision des lois de bioéthique.
Rencontre mensuelle avec notre évêque, Mgr Marc Ayé.
Autre question qui concerne la vie du diocèse. Un certain nombre de projets sont petit à petit énoncés et mis en œuvre dans le diocèse. Un certain nombre d'initiatives également peuvent rencontrer, bien entendu, l'adhésion des fidèles du diocèse, mais aussi parfois susciter quelques interrogations. Et parmi celles-ci, la décision récente que vous avez prise pour l'application de ce qu'on appelle le motu proprio Summorum Pontificum de Benoît XVI concernant la forme extraordinaire du missel romain, Pouvez-vous nous faire part des raisons pour lesquelles vous avez été amené à annoncer tout récemment que depuis le 8 novembre, effectivement, tous les dimanches, une messe dans la forme extraordinaire du rite est célébrée à la chapelle des Capucins à Bayonne et prochainement, je crois, également à Pau.
Comme vous le savez, depuis plusieurs années, en application d'un premier motu proprio intitulé « Ecclesia Dei et Flicta », qui avait été publié par Jean-Paul II en 1988, à la suite d'ailleurs des sacres illicites d'évêques par Mgr Lefebvre, mon prédécesseur avait mis en place, une fois par mois, à Biarritz, à la chapelle du Braou, une messe célébrée selon le missel du bienheureux Jean XXIII, dans son édition de 1962 donc, qui est appelée désormais la forme extraordinaire du rite romain. Depuis, en juillet 2007, un nouveau motu proprio a été publié par le pape Benoît XVI, qui fait suite au premier, et qui veut garantir davantage, dans un esprit de communion et de réconciliation au sein de l'Église catholique, le droit des fidèles attachés à cette forme dite extraordinaire du rite romain, pour permettre une plus grande possibilité à ces fidèles d'y participer. C'est pourquoi, après avoir entendu des demandes de ces fidèles, m'être assuré que ça ne pouvait se faire que dans un esprit de communion avec le Saint-Siège et d'accord avec le Concile Vatican II, bien entendu, avoir réfléchi avec le Conseil épiscopal, j'ai donc décidé de mettre en application ce motu proprio Summorum Pontificum du 7 juillet 2007 et de prendre l'initiative de cette messe célébrée chaque dimanche à Bayonne, à la chapelle des Capucins, par un prêtre qui a la possibilité de célébrer selon les deux formes, ordinaire et extraordinaire, de manière à ne pas enfermer les fidèles qui sont attachés dans une chapelle distincte, mais qu'ils puissent prendre toute leur place dans la communauté ecclésiale de notre diocèse, et en particulier de Bayonne. L'esprit qui préside évidemment à cela, c'est toujours l'attention aux droits des fidèles, garantie par le droit de l'Église, mais c'est aussi l'esprit de communion et de réconciliation. Je crois que c'est très important aujourd'hui que nous puissions dépasser tout ce qui pourrait par le passé avoir été des raisons légitimes de part et d'autre d'ailleurs de souffrance, de blessures dans la communion, et je crois que ce ne peut être qu'une pierre apportée à l'édifice de la communion de tous à l'intérieur du diocèse et qui passe forcément par des nécessaires apaisements entre les différences qu'il faut reconnaître pour elles-mêmes et apporter une certaine réconciliation là où il pourrait y avoir eu des blessures dans la communion.
Monseigneur l'évêque, le pape Benoît XVI travaille activement à la communion dans l'Église et notamment en ce moment même à la communion entre catholiques et anglicans. Alors où en est-on et que le pape a publié récemment un texte important?
Alors en effet, je crois que si j'ai bien compris ce qui se passait, dans le cadre donc des relations œcuméniques entre l'Église catholique et la communion anglicane, d'une manière générale, il y a une évolution aussi, comme vous le savez, chez les anglicans qui n'est pas du goût de tous. En particulier, la communion anglicane, d'une manière assez officielle, s'est prononcée en faveur d'un certain nombre d'aménagements, par exemple de l'ordination des femmes, la possibilité pour des homosexuels pratiquants de devenir prêtres ou même évêques. Et un certain nombre de communautés de paroisses anglicanes se sont désolidarisées de ces décisions et ont constitué des communautés à l'intérieur de la communion anglicane, comme c'est le cas plus facilement chez les anglicans sans doute que chez les catholiques. Et ont demandé depuis plusieurs années, en raison de ces divergences et en approfondissant leur lien de communion avec l'Église catholique, ont demandé au Saint-Siège de pouvoir être rattaché à l'Église catholique. Et de fait, l'Église catholique a d'abord été extrêmement prudente, ce que les médias ne rendent pas immédiatement, hein, tant la nouvelle, effectivement, est tombée un peu comme un scoop médiatique. Mais pendant plusieurs années, l'Église catholique, sans doute certainement aussi par des négociations avec la communion anglicane officielle, a freiné cette demande et a étudié la possibilité d'intégrer à la communion catholique, à leur demande bien entendu, ces groupes assez importants, puisqu'il s'agirait quand même de 500 000 fidèles, prêtres et évêques même, dans la pleine communion de l'Église catholique. Quand la nouvelle a été annoncée par le cardinal Levada, préfet de la Congrégation prédominique de la foi, un communiqué commun a été fait par l'archevêque de Canterbury de la communion anglicane et le primat de l'Église catholique en Angleterre, où ils ont pris acte de cette acceptation du Saint-Siège et ont dit en effet que c'était dans la norme des relations écuméniques engagées depuis longtemps entre l'anglicanisme et l'Église catholique. Maintenant, le Saint-Père vient de publier une constitution apostolique qui définit les modalités de cette pleine communion de ces anglicans qui demandent à intégrer l'Église catholique. Et le Saint-Père, dans un esprit de grande communion précisément, et de grande ouverture, a voulu maintenir ces anglicans dans leur tradition liturgique et spirituelle. Ouais, je crois que c'est là la nouveauté, c'est qu'il ne veut pas leur imposer une uniformisation sur les rites et la spiritualité de l'Église catholique, reconnaissant parfaitement leur tradition dans l'Église anglicane.
Rencontre mensuelle avec notre évêque, Mgr Marc Haillé.
Mgr Haillé, nous allons entrer dans une nouvelle année liturgique. C'est un temps fort. Cette entrée dans l'année liturgique marquera aussi votre première année donc à la tête de notre diocèse. Or, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux chrétiens du diocèse pour bien vivre ce temps de l'Avent?
Alors, je crois que la première chose que je veux dire, c'est que c'est vrai que cette entrée dans le temps de l'Avent et donc dans une nouvelle année liturgique marquera le premier anniversaire de mon ordination épiscopale et me permettra moi-même de rendre grâce pour cette première année à la découverte et à la rencontre de tous les acteurs qui font la vie de l'Église de Bayonne, Lescar et Oloron, et de rendre grâce aussi pour ce don qui m'a été fait de devenir pasteur d'un si beau diocèse. Je crois que l'essentiel que j'aurai à donner comme message, c'est ce que j'essaierai de développer dans la lettre pastorale qui paraîtra sans doute un peu plus tard que le début de l'année liturgique, mais certainement dans les semaines qui suivront, et qui voudrait partager un certain nombre de réflexions pour orienter ensemble les années à venir dans notre diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Ce sera en effet d'être très à l'écoute de cet évangile de Saint-Luc qui est l'évangile privilégié de cette année C du cycle liturgique dans laquelle nous allons entrer, et qui est l'évangile par excellence de l'évangélisation. Vous savez que Saint Luc a écrit non seulement le troisième évangile, mais aussi les Actes des Apôtres, qui nous disent comment l'Esprit Saint a fondé l'Église avec la grande prédication des apôtres, par les missions de Paul en particulier, jusqu'aux extrémités de la terre, pour répandre la parole de Dieu et gagner les âmes au Christ. Et je crois que cet évangile de Saint-Luc va nous aider, en effet, à nous établir encore plus solidement dans cette posture missionnaire, pour nous engager résolument dans cette urgence de l'évangélisation pour notre temps.
Alors justement, des prêtres de Pau ont proposé, ont créé un ouvrage sur les Actes des Apôtres.
Précisément, pour honorer aussi le thème de cette année sacerdotale dans laquelle nous sommes entrés depuis le 19 juin dernier et qui va se dérouler jusqu'au mois de juin 2010, le même groupe qui avait travaillé à ce petit livret sur Saint Paul pour l'année Saint Paul a travaillé sur les Actes des Apôtres pour proposer des thèmes de réflexion à la fois spirituels et pratiques sur les appels, les vocations dans les Actes des Apôtres. Donc je recommande vivement aux chrétiens du diocèse de se procurer cet ouvrage et de se constituer en groupe ou de reprendre les groupes Saint Paul qui s'étaient constitués si spontanément dans nos paroisses pendant toute l'année Saint Paul pour pouvoir utiliser ce bel outil de réflexion et de prière.
Merci beaucoup, Monseigneur Haillé. Nous vous retrouverons au mois de décembre, donc ce sera juste quelques jours avant Noël, et pour partager ensemble l'actualité du monde et de l'Église. Merci aussi à Olivier Drapé, délégué épiscopal à l'information. Merci.
Merci. Merci.
Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
C'était la rencontre mensuelle avec notre évêque, Monseigneur Marc Haillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, une rencontre que vous pouvez réécouter sur le site internet de la radio www.lapourdi.net.